Sur Radio Campus Tours. Bienvenue si vous nous rejoignez. Vous écoutez La Méridienne avec moi aujourd'hui en studio. J'ai trois invités, deux étudiantes relais santé et une diététicienne. On va se soucier de votre bien-être et de votre ligne après les fêtes. Alors, bonjour Léna.
Bonjour.
Bonjour Zoé.
Bonjour.
Et bonjour Julie.
Bonjour.
Alors mesdames, merci à vous d'être venues dans cette émission. Et sans plus attendre, je laisse la parole à nos étudiants relais santé, Léna et Zoé.
Du coup, je vais vous refaire un petit récapitulatif de qui sont les étudiants relais santé. Du coup, nous sommes des étudiants payés pour confectionner, animer différents projets de prévention par les pairs au sein du campus de Tours. Nous travaillons avec le SSU, qui est le service santé universitaire. C'est une organisation qui regroupe du personnel médical et social, tel que des médecins généralistes, des gynécologues, des dentistes, même des assistantes sociales, etc., etc. Et tout ça pour faciliter les rencontres étudiants-médecins. Parce que quand on est étudiant et qu'on arrive sur Tours, on ne connaît pas la ville, c'est toujours plus simple d'avoir une organisation qui nous aide à trouver nos médecins généralistes et tout ça, tout ça. Et je vais juste vous rappeler que la consultation, elles sont sans avance de frais pour les étudiants. Si vous venez avec votre carte vitale et la carte mutuelle. Et les rendez-vous peuvent être pris en ligue pour les gynécologues, les médecins et les infirmiers. Mais aussi, on peut appeler pour prendre rendez-vous directement avec le SSU. Et du coup, les ERS, on intervient sur trois thèmes différents. On intervient par équipe, on est cinq par équipe. La première équipe, c'est addiction et soirées festives, que vous avez pu entendre dans différentes émissions auparavant. Et aussi sexualité et vie affective, qui a aussi fait d'autres émissions. Et du coup, nous, avec Léna, on appartient au groupe bien-être et un peu d'activités sont les bien-être physiques tels que le sport ou l'alimentation. On va en parler aujourd'hui avec vous et aussi le bien-être mental comme le mal-être, par exemple le suicide ou aussi la gestion du stress, méditation, yoga, tout ça, tout ça. Je vais vous refaire un petit point sur les quelques événements qui vont arriver au sein de l'université. Alors du 27 janvier au 6 mars, il va y avoir une exposition sur l'alimentation. Réalisé par les M2 Culture et Patrimoine, s'appelle Croque ta fat, et ça sera au site Grandmont. Il y a aussi le 27 janvier aussi, un ciné-débat qui est sur le mal-être, qui tourne autour de la question du suicide. Ça sera sur un film La vie rêvée des anges de Eric Zonka, qui est un très bon film. Et aussi, il y a bientôt une nouvelle détente à la BU, le 30 janvier au Tanner. C'est une après-midi où des intervenants viennent pour proposer des séances de yoga, méditation, qigong, etc., etc. Avec un petit buffet aussi, sympa, entre les plusieurs séances. Et aussi, le 3 février, à partir de 18h, se déroulera la soirée bien-être, qui est pareil, sur toute une soirée, des intervenants viennent pour faire des cours où il faut s'inscrire auparavant, et on va... faire des ateliers de yoga, méditation, dégustation de chocolat et aussi un buffet, comme d'habitude. Et c'est nous qui nous occupons d'accueillir les étudiants, les diriger, les nourrir avec le buffet. Voilà, c'est à peu près tout sur les événements qui vont se dérouler dans ce mois-ci et celui qui vont suivre.
Alors, est-ce à dire que c'est une bonne façon d'appâter les étudiants de leur proposer un buffet? Est-ce que ça...
Oui, ça marche bien. Mais surtout qu'on va... Justement, on propose des buffets qui sont de bonne qualité avec justement une alimentation comme sur le sujet qu'on va parler là à l'instant. Mais c'est cool. Mais c'est plutôt bon.
Voilà, donc c'est la transition toute trouvée.
C'est ça.
C'est un buffet qui est pensé et réfléchi.
Voilà, du coup, on va traiter tout d'abord de l'activité physique, qui est quelque chose d'important, et puis après, on parlera de l'alimentation avec Zoé et Julie.
Du coup, pour l'activité physique, je vais reprendre qu'est-ce qui est un peu recommandé par jour. Par jour, en moyenne, il est recommandé de pratiquer 30 minutes d'activité sportive. Quand je dis activité sportive, je ne vais pas forcément dire du sport intensif pendant 30 minutes. Par exemple, c'est pas aller à la salle pendant 30 minutes tous les jours ou faire une course à pied pendant 30 minutes tous les jours. Parce que forcément, quand on est étudiant, on a les cours, on a aussi les révisions à faire, tout ça. Du coup, 30 minutes par jour, c'est assez dur. Mais du coup, quand je parle d'activité physique, je parle de marche, monter les escaliers, porter des sacs, tout ça. Ça en global. Du coup, je vais vous donner quelques astuces, on va dire, pour atteindre ces 30 minutes par jour. Bon, des astuces qui sont quand même connues la plupart du temps, comme privilégier les escaliers plutôt que les ascenseurs, qui est mieux que... Enfin, monter deux étages en escalier, c'est pas grand-chose pour notre âge. Et il y a aussi réduire les trajets en voiture, qui sont pas qu'un avantage physique, mais aussi économique pour les étudiants, parce que l'essence, ça coûte cher, on le sait tous. Et aussi, ou si les trajets en voiture forcément sont plus longs et que le faire à pied, c'est pas très avantageux vu la durée, on peut aussi prendre le vélo. Et si on n'a pas de vélo avec nous sur Tours, parce qu'on vient d'une autre ville, ou etc., etc., on peut. Le Fil Bleu propose un abonnement par mois de 3 euros pour les abonnés Fil Bleu et de 5 euros pour les abonnés Fil Bleu aussi. Du coup, c'est assez avantageux et cool parce que c'est que 3 euros, ça va sur un budget étudiant. Il y a aussi l'université de Tours qui propose un pack sport qui permet d'accéder à des activités physiques régulières et variées qui sont aussi adaptées au budget des étudiants. Que je vais vous faire un petit résumé de ce que c'est le pack sport. C'est une large offre d'activités sportives proposées par le service de sport de l'université. Du coup, on comprend des cours, des stages nature et aussi des formations diplômantes. Et en plus de ça, ce qui est un plus, c'est que certaines activités sont bonifiantes, c'est-à-dire que en faisant ces activités, ça nous permet de gagner des points sur notre moyenne. Et quand on est étudiant, c'est toujours des points en plus, c'est intéressant. Et tout ça pour obtenir ce pack sport, il vous suffit d'aller au STRAPS, c'est le service universitaire des activités physiques et sportives, qui se trouve au site Grandmont. Alors il suffit, c'est tout au long de l'année, on peut y aller et demander à s'inscrire, tout simplement. Ou sinon, dès l'inscription au début de l'année, ils nous le proposent, avec aussi le pack culturel. Mais du coup, ce pack, il est à 25 euros par an au moment de l'inscription. Du coup, c'est pas non plus, c'est pas très cher. Et il est aussi proposé aux étudiants qui sont dans des établissements qui sont sous convention. Du coup, là, il est un peu plus cher, il est à 50 euros par an. Ce qui est assez, ça va pour un an de sport avec des cours rythmés, variés, on peut choisir ce qu'on veut. Et aussi, c'est valable qu'une année et c'est pas remboursable. Et du coup, toutes les activités proposées sont très variées. Il y a des sports aquatiques comme la natation synchronisée aussi, des sports d'expression, enfin, du théâtre, de la danse, etc., etc., parce qu'il y en a plein, du coup, j'en donne quelques-uns à chaque fois. Des activités du corps comme de la musculation ou du fitness, de l'athlétisme. Aussi des activités diverses comme du golf, de l'escalade, de la gymnastique. Il y a des pratiques du bien-être avec du yoga, de la méditation, gestion du stress. Des sports collectifs comme le foot, le rugby, des sports de combat, boxe et des sports de raquettes, tennis, tout ça. Et aussi ce qui est important à dire, c'est que le SWAPS il peut accueillir des étudiants en situation de handicap dans tous ses cours, la plupart du temps. Du coup, si vous voulez plus d'informations sur le pack sport, il y a tout ça sur le site de l'université de Tours. Et en plus de ça, en parallèle de toutes ces activités que propose l'université, il y a la ville de Tours qui propose aussi des infrastructures gratuites et accessibles à toutes et à tous, comme le parcours de jogging équipé qui se trouve au parc de la Bergeonnerie. Si, pour vous situer, c'est entre la piscine du lac et le site Portalis, la fac des Deux Lions. Du coup, c'est assez cool pour pouvoir faire son sport, courir, et après, il y a aussi, avec le parcours de jogging, il y a aussi des appareils de musculation qui sont gratuits. C'est pas non plus les grosses machines de sport, mais bon, c'est quand même ça, et c'est super cool que la ville nous propose ça pour les étudiants qui n'ont pas le moyen de s'acheter, d'avoir un abonnement tous les mois pour aller à la salle de sport. Et aussi, il y a des associations étudiantes qui se regroupent pour faire du sport tout au long de l'année. Et aussi dans certains quartiers de Tours, ils font cette pratique aussi, ils se regroupent entre quartier pour aller courir parce que c'est toujours mieux de se motiver ensemble, enfin d'être en groupe, c'est toujours plus motivant pour certaines personnes, surtout. Mais du coup, après petit passage sportif, faut savoir que c'est bien de maintenir une activité sportive, c'est important, mais que ça va pas sans bien manger. Et manger, c'est l'alimentation, c'est un des plaisirs les plus importants des étudiants et même de toute personne. Et c'est pas toujours simple d'allier alimentation quand on a un petit budget d'étudiant. Et du coup, on va essayer de vous donner quelques petites astuces pour réussir à avoir une bonne alimentation tout au long de l'année sans se contraindre. Parce que c'est important de pas se sentir obligé de suivre petits tips. Je sais pas comment dire. Voilà. Je laisse Léna commencer sur le sujet de l'alimentation. Merci.
Alors, je sais pas, peut-être que avant, Julie, tu voulais nous parler du Nutri-Score ou de choses comme ça. Je sais pas.
Oui, alors, je vais peut-être juste commencer par me présenter. Je m'appelle Julie Capel. Moi, j'ai été diététicienne. Parce que je parle au passé, je suis plus diététicienne en tant que telle aujourd'hui. Mais j'ai été diététicienne pendant 6 années, en fait, en libéral sur Tours. Et j'ai également pu travailler pas mal avec le SSU sur la mise en place d'un projet qui s'appelait « Quand la nutrition s'invite à l'université ». Donc, on a beaucoup bossé avec les étudiants sur ces questions-là, qui étaient « Qu'est-ce que le bien manger ?» Finalement, quel sens ont les recommandations nationales pour moi en tant qu'étudiant ? Est-ce qu'elles sont applicables ? La question du budget, qui est un point fondamental et qu'on évoquera peut-être ensemble. Et finalement, qu'est-ce que ça m'apporte de bien manger aussi dans la réussite de mes études ? Voilà, la question de l'impact de certains aliments aussi sur mon bien-être, soit physique ou mental. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie ce point-là. Et on peut faire le lien avec l'activité physique également. L'activité physique, c'est super pour se maintenir en santé physique, mais également mentale, pour se retrouver et essayer un petit peu de s'oxygéner les neurones dans cette période qui est quand même assez chargée. Voilà, donc aujourd'hui, je ne travaille plus en tant que diététicienne libérale sur Tours. Je suis cadre de l'unité de nutrition du centre hospitalier de Blois, donc c'est un autre versant, mais qui est assez intéressant. Et on voit aussi des étudiants dans nos lits d'hôpitaux avec des pathologies, et là c'est d'autres recommandations qu'on doit faire et qu'on doit adapter, mais en soi la question du plaisir de l'alimentation elle se pose toujours dans ces conditions-là. Donc du coup effectivement Léna, tu me proposais d'évoquer la question du Nutri-Score pour introduire ce point qui est l'alimentation. Alors je sais pas si c'est le point d'entrée que j'aurais privilégié, mais c'est pas grave, je vais me contraindre à cet exercice-là, il n'y a pas de souci. En fait, le Nutri-Score, c'est un score qui déjà depuis l'année dernière commence à être apposé sur la plupart des plats transformés et boissons que l'on peut trouver en supermarché. C'est un score qui existe en Angleterre déjà depuis un certain temps, hein, on parle d'un feu tricolore hein, pour les anglophones. Chez nous, on a choisi un score finalement qui va être réparti en 5 couleurs et 5 lettres qui permettent de classer finalement les aliments d'une même catégorie en fonction de leur qualité nutritionnelle. Alors pour exemple, on va dans le rayon des céréales du petit-déj, hein, je prends ça complètement par hasard pour nos étudiants, parce que c'est un vrai problème, hein, les céréales du petit-déjeuner, mais on pourra y revenir. Et donc on se présente dans ce rayon des céréales du petit déjeuner et on va choisir 2 paquets de céréales. Le premier va avoir bien une petite pastille d'une couleur orange et va être classé dans une lettre. Alors je ne sais plus exactement laquelle correspond à la couleur orange, peu importe. Et puis on va prendre un autre sachet de céréales, par exemple des muesli sans sucre ajouté, qui sont pas extra bonnes, mais peu importe, en tout cas, elles ont cette pastille verte classée numéro A. Ce qui nous permet d'en venir à la conclusion que le sachet de muesli sans sucre ajouté, qui a une pastille verte, va être de meilleure qualité finalement que l'autre sachet de céréales, dont je ne cite pas de marque, hein, mais qui aura une pastille orange ou rouge. Voilà, donc c'est intéressant dans le sens où ça peut guider le consommateur dans ses choix alimentaires pour pouvoir orienter en tout cas son choix alimentaire sur les produits transformés. Néanmoins, moi je trouve qu'on fait un peu finalement la promotion aussi des produits transformés avec ce Nutri-Score. Et peut-être que la première chose qu'il faut qu'on redise ou que l'on dise, c'est attention aux produits transformés. Et s'il y a une seule chose à retenir de notre passage aujourd'hui sur cette radio, c'est bien cela, c'est essayer de choisir des produits qui sont le plus bruts possible. Et donc des produits qui n'ont pas le Nutri-Score, puisque les produits qui ont le Nutri-Score, c'est les produits qui sont des plats transformés dans lesquels on ne maîtrise pas trop les compositions et on a souvent des ajouts d'additifs, de conservateurs qui ne sont pas comptabilisés dans le calcul du Nutri-Score. Donc ça, c'est un autre point finalement qui me semble problématique.
Et par rapport à ça, juste... on peut vous conseiller, en tout cas pour ajouter un complément aux informations nutritionnelles des aliments que vous allez choisir, on a deux applications qui sont pas mal. Donc il y en a une qui s'appelle Yuka et l'autre qui s'appelle Open Food Fact et qui vont donc donner plus d'informations que juste un Nutri-Score.
C'est vrai, elles permettent effectivement d'aller un petit peu plus loin, de donner en tout cas des explications derrière. Et moi c'est ça qui me semble intéressant, c'est qu'on puisse aussi éduquer le consommateur. Et non pas l'amener juste sur un choix de couleur de pastille, mais plus qu'ils comprennent qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, mon paquet de céréales, je vais plutôt choisir celui-ci qu'un autre, tout en gardant la notion du plaisir en tête. Et celle-ci, elle va être fondamentale. Est-ce que ça me fait plaisir de manger les muesli sans sucre ajouté qui sont pas forcément extra bonnes? Donc ça repose la question aussi de la fréquence de ces produits, de ces plats transformés. Et ça, on va y revenir avec le PNNS et les nouvelles recommandations là qui sont sorties récemment au niveau de l'alimentation.
Donc les nouvelles recommandations, avant on se souvient c'était manger 5 fruits et légumes par jour, mais bon c'est pas forcément très très clair la façon dont il faut le faire. Alors maintenant ce serait plutôt augmenter notre consommation de fruits et de légumes aller vers des aliments qui sont complets comme des pâtes complètes, du pain complet. Et puis aussi réduire la consommation d'alcool, de sucre, enfin ou de boissons sucrées et les produits salés. Et donc voilà, c'est un peu plus clair comme recommandation.
En fait, c'est vrai que là, l'orientation. Alors pour vous reposer un petit peu le contexte, le PNNS, c'est le Plan National Nutrition Santé. Il existe depuis 2001 en France, donc on est quand même dans un pays où la politique nutritionnelle elle a été affirmée assez tôt, même s'il y a d'autres pays comme le Canada ou la Suisse qu'on cite toujours, qui ont travaillé déjà bien en amont de la France sur ces recommandations. Mais peu importe, en tout cas ça c'est super de se dire que eh bien en France on a des recommandations nationales. Et donc là on en est au 4e plan national nutrition santé. Donc il y a eu des évaluations qui ont été faites au fur et à mesure des plans précédents et on s'est rendu compte que les injonctions un petit peu rigides type donner des notions de quantité, voilà, le manger 5 fruits et légumes par jour, on le retient, néanmoins on a du mal à savoir ce qu'il y a derrière. Est-ce que si je mange 5 framboises, j'ai rempli mon quota ou pas? Et puis ces injonctions, peut-être qu'elles freinaient aussi certaines personnes. 5, moi ça me paraît énorme, déjà je mange un kiwi le matin, ça me semble une montagne. Donc, arriver à 5, ça me décourage plus qu'autre chose. Donc voilà pourquoi les nouvelles recommandations, elles utilisent des mots et un vocabulaire qui amène plus le consommateur ou l'usager ou le public à valoriser ce qu'il fait déjà et essayer d'ajouter, d'intégrer un petit plus chaque jour. Donc d'où le tendre vers augmenter sa consommation de fruits et légumes sans forcément donner des notions très très précises. Voilà un petit peu pour le gros de ces éléments. Alors je ne sais pas si vous voulez qu'on revienne peut-être un peu plus en détail sur les recommandations. Donc tu as parlé des fruits et légumes. Ces fruits et légumes, on peut les consommer frais, mais pas que. On peut aussi les consommer en conserve ou surgelés. Et ils ont des qualités nutritionnelles qui sont tout aussi intéressantes et parfois plus intéressantes. On se rend compte quand on fait quelques analyses scientifiques qu'un fruit ou un légume qui est resté sur une étale de marché ou de supermarché pendant très 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 longtemps, il va avoir perdu ses qualités nutritionnelles parce qu'elles se seront oxydées au contact de l'air, de la lumière, alors qu'un produit qui va être cueilli à maturité et surgelé directement, il aura finalement plus de qualités nutritionnelles. Donc des fois, on fait un petit peu la chasse aux produits surgelés, aux produits en conserve, et c'est pas forcément expliqué. Donc voilà, pour ce groupe d'aliments, en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir les varier et surtout les choisir de saison au maximum. Mm-hmm.
Moi, après, je n'avais pas plus d'informations là-dessus. Je ne sais pas si...
Alors après, il y a aussi une petite nouveauté quand même sur les recommandations, même deux nouveautés par rapport aux recommandations antérieures. Il y avait la question des produits laitiers. C'est parti sur 3 produits laitiers par jour jusqu'alors. Et là, le nouveau plan préconise 2 produits laitiers par jour. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en parallèle, ils vont finalement pousser à la consommation d'autres produits qui contiennent du calcium et donc qui vont permettre de couvrir cette troisième portion finalement qu'on n'aura plus chaque jour. Et les autres aliments qui vont contenir du calcium, nous avons tout ce qui est complet, hein, les féculents complets ont plus de micronutriments, mais également ils préconisent une poignée de noix ou d'amandes, de fruits oléagineux par jour. Donc une poignée, c'est à peu près 10 fruits oléagineux. Alors nous, ça nous pose un peu question, hein. On est toujours un peu critique, hein, sur des recommandations nationales parce qu'elles ne s'appliquent pas forcément à tout le monde, hein. Encore une fois, c'est des règles universelles, mais on peut toujours se poser ces questions-là. Le coût des noix, il est quand même assez élevé. Donc moi, je vous mets au défi de manger votre sachet de 10 ou 15 noix tous les jours. Il n'empêche que c'est un budget supplémentaire. Donc oui, ça va nous apporter des oméga 3, donc des bonnes graisses qui vont permettre de nourrir le cœur, nourrir le cerveau. Néanmoins, ces bonnes graisses, on va aussi les trouver dans des huiles. Et on a peut-être des huiles comme l'huile de colza, par exemple, qui a beaucoup d'oméga 3 et qui seront plus abordables que d'acheter des noix comme ça. Donc voilà, ça c'était peut-être les petites nouveautés. On avait aussi une recommandation autour du poisson. Donc là, la recommandation, il la précise un petit peu en proposant de consommer donc plus de poissons, ça ok, mais également plus de poissons gras de petite taille. Alors pourquoi de petite taille ? Alors petite taille, ça veut dire plutôt les sardines, les maquereaux, donc des poissons en conserve qui sont pas très chers et finalement qui sont de très très bonne qualité nutritionnelle. Donc je vous encourage à remettre sur nos tables ces poissons en conserve. Et en fait, ils préconisent des petites tailles de poissons puisque c'est la question des métaux lourds. Les métaux lourds, en fait, ont tendance à se fixer sur les graisses des poissons. Et donc, plus un poisson va être gros, type le thon, plus il va avoir de graisse et plus il va fixer de métaux lourds. Donc l'idée, c'est on continue de manger du saumon et du thon, hein, on va pas faire la chasse à ces poissons. Néanmoins, on va essayer d'intégrer peut-être plus de petits poissons gras. Et pour terminer, il y a quand même un point fondamental qui est très en lien avec l'actualité et la question environnementale du coût des protéines animales. Est-ce qu'il faut continuer à consommer de la viande ou pas, du poisson ou pas, au regard de ce que ça nous coûte, hein, en termes d'énergie, d'eau et de tout ce qui va autour. Il y a quand même une orientation autour de la consommation de légumineuses. Donc les légumineuses, c'est les lentilles, les pois chiches, les haricots rouges, les pois cassés, voilà, toute cette grande famille qui va être intéressante parce qu'elle est peu coûteuse. Pour la cuisiner, vous pouvez les prendre en conserve tant qu'elles ne sont pas préparées, hein, on va éviter les lentilles à l'auvergnate, prenez peut-être les lentilles basiques que vous transformez vous-même et elles vont avoir une qualité nutritionnelle qui est très très intéressante.
Alors je pense qu'on peut passer à des petites astuces pour manger du coup mieux, pas très cher, et puis aussi éviter tout ce qui pourrait être gaspillage. Donc quand on prend des nouvelles résolutions sur l'alimentation, par exemple, il faut pas que ce soit trop contraignant parce qu'on sait que sinon on s'arrête assez vite de les tenir, ces résolutions. Donc plutôt que d'arrêter vos recettes préférées, et on peut vous proposer tout simplement de les revisiter. Donc par exemple, si j'ai envie d'un dessert de banane et de chocolat, bah plutôt que d'utiliser du chocolat au lait qui va être très sucré, je vais plutôt privilégier du chocolat noir qui va être riche en magnésium par exemple, et apparemment c'est bon pour le moral en plus. Si par exemple j'ai envie de manger des hamburgers, c'est pas un problème, mais c'est mieux de le faire soi-même, comme ça je peux le composer comme j'en ai envie, et puis finalement ça revient moins cher, et puis je trouve que c'est bien meilleur qu'un hamburger de fast-food. Par exemple, j'adore les pâtes carbonara, je vais les revisiter en utilisant plutôt des pâtes complètes pour que ce soit plus nutritif. Aussi, pour aller vers une consommation de sel moins... Comment dire, enfin, pour juste simplement consommer moins de sel, et pour quand même donner du goût à mes plats, je peux les assaisonner avec des herbes aromatiques. Quand on est étudiant, on n'y pense pas forcément. Et en plus, sur l'esplanade des tanneurs, il y a un jardin partagé qui fait pousser des légumes, des fruits, et puis il y a quelques herbes aromatiques aussi qu'on peut donc on peut se servir. Aussi, pour éviter le sel, je peux cuisiner avec des épices. Ça a un certain coût au début, les épices, mais bon, une fois qu'on en a, ça dure quand même assez longtemps. Et puis, ça permet de varier le goût de mes plats. Et puis, aussi, il ne faut pas oublier que l'université, elle propose les restaurants universitaires avec... le repas à 3,25€. Donc le restaurant universitaire par rapport à un sandwich par exemple que je vais aller acheter en boulangerie et que je vais payer aux alentours de 4€, et qui en plus va pas me rassasier jusqu'au soir, en comparaison à ça, les restaurants universitaires, ils vont avoir des menus qui sont variés, qui sont complets, avec une entrée, un plat, un dessert, et puis potentiellement des suppléments qui seront rajoutés au prix du repas qui est à 3,25€. Après, personnellement, j'en ai fait l'expérience, et quand je sors du restaurant universitaire, j'ai plus faim jusqu'au soir, je suis vraiment rassasiée. Après, il y a une autre application dont on peut vous parler en plus de Yuka et Open Food Fact, qui sont toutes des applications gratuites d'ailleurs. Ça s'appelle Too Good To Go. C'est une application qui est partenaire avec des commerces, des brasseries, des pizzerias, des boulangeries, et qui vous propose de la nourriture à pas cher qui était destinée à être jetée en fait par rapport aux normes sanitaires qu'ils doivent respecter. Et donc on peut aller les chercher, et on va avoir je sais pas, une pizza ou des viennoiseries pour beaucoup moins cher que ce que c'était censé être, et qui sont toujours des aliments très bons, il n'y a pas de souci. Parfois, on peut aller les chercher directement, et sinon, parfois, il faut réserver pour le lendemain. Ce qui peut être pas mal, c'est aussi d'adhérer à une AMAP, donc une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. À l'université, on vous propose des paniers de légumes, donc, qui sont des légumes frais, et qui sont de saison, variés, et c'est des paniers de légumes qui sont quand même bien fournis et qui sont pas très chers, et qui permettent de bien manger, parce qu'on a les légumes de saison sous le nez, et on a juste à les cuisiner et à les manger, et ils sont tout frais et tout bons. Il y a aussi une association étudiante, c'est les Halles de Rabelais. C'est une association qui vient en aide aux étudiants qui sont dans des situations budgétaires précaires. Donc elle met en place des colis alimentaires deux fois par mois sur le campus de Gramont, à la maison de l'étudiant. Ces colis alimentaires, ils sont composés de denrées non périssables, donc par exemple des pâtes, de l'huile, des confitures, mais il y a aussi du lait, des légumes et des plats en conserve. Donc pour être bénéficiaire de cette aide, il faut être dans le critère de quelqu'un qui vit avec seulement 6 euros par jour. Pour prouver ça, il faut prendre un rendez-vous avec une assistante sociale qui peut être une assistante sociale de l'université. Vous pourrez être bénéficiaire de ces colis alimentaires. Par contre, il faut payer 10 euros pour s'inscrire, pour adhérer en fait à cette association étudiante, et c'est pour l'année.
Et il y a aussi à dire, je te coupe, désolée, que pour les étudiants où ils sont vraiment dans une situation précaire, où ils n'ont pas entendu parler de ça, où ils ne sont pas bénéficiaires dès le début de l'année, où ils n'ont pas payé 10 euros pour toute l'année, ils ont le droit à deux colis dits d'urgence, où s'ils se rendent un des soirs de distribution, ils peuvent arriver et vraiment prouver qu'ils sont en situation d'urgence. Et là, on peut leur donner un colis pour le mois. Et du coup, par la suite, rencontrer des bénévoles qui sont non étudiants de cette association pour pouvoir réaliser l'inscription, on va dire, avoir un rendez-vous et pour pouvoir bénéficier de cette aide. Et c'est super important aussi de dire ça parce que...
Oui.
C'est cool.
Il y a aussi astuce pour trouver de la nourriture, un frigo solidaire qui a été mis à disposition. C'est un frigo qui est en extérieur, qui est en libre service, qui est installé. Il est installé place des Halles, près d'un restaurant qui s'appelle le Mastroquet. Les citoyens de la ville, les commerçants, les restaurateurs peuvent mettre de la nourriture, et ceux qui sont dans le besoin peuvent prendre cette nourriture. C'est pour lutter contre le gaspillage et puis aider les personnes en difficulté. Si on se dirige dans votre cuisine, et on a aussi quelques petites astuces à vous donner. On n'a pas trop de budget, on peut vous proposer un ustensile qui est pratique, pas cher et qui peut être multifonction, un peu comme une alternative au mixeur, qui est le presse-purée. Donc ça vous permet d'écraser vos légumes pour la soupe, vos pois chiches pour un petit houmous, et aussi presser les patates pour la purée. On peut vous parler du livre de cuisine et des bonnes astuces qui a été créé au SSU. Ce livre, il vous propose des recettes variées qui sont assez rapides à faire et à petit budget. Mais c'est pas tout ce qu'il contient. Il y a aussi dedans des astuces de grand-mère. Il précise aussi les bienfaits des aromates. Il donne des astuces pour pas faire de gâchis. Le revêtement du livre, en plus, il est pensé pour être utilisé dans la cuisine, parce que s'il reçoit quelconque préparation culinaire, il a un revêtement qui fera en sorte que le livre ne sera pas abîmé. Il y a certaines recettes qui sont réalisables à partir du moment où on possède juste un micro-ondes et une plaque de cuisson. On peut vous proposer 4 recettes qui sont sympas et faisables à partir d'un petit budget. On a par exemple en entrée ou en apéro entre amis le tzatziki. Le tzatziki, c'est vraiment pas compliqué à réaliser. Il faut un yaourt à la grecque, du concombre, de l'ail et une cuillère à soupe d'huile et du vinaigre blanc. on va râper le concombre, on va écraser une gousse d'ail, on va mélanger tout ça au yaourt à la grecque, ajouter un peu d'huile, et puis c'est délicieux et c'est sympa, et vraiment pas cher. Après, on peut vous proposer la fondue de poireaux, qui peut être bien avec du riz, par exemple. Ça se marie plutôt bien ensemble, je trouve. Donc, c'est très simple aussi et vraiment pas très cher. Donc, il faut des poireaux et puis après, on les assaisonne un peu comme on veut et on les laisse fondre à la poêle avec du beurre ou de l'huile, selon ce que vous préférez. Ici, dans la recette, ils disent plutôt du beurre. Après, il y a par exemple du poulet au miel balsamique, qui peut être aussi... moi, je faisais une recette qui était sympa aussi, avec des sauces sauce soja, et pareil, du poulet un peu au miel. Après, on a aussi... des quiches chèvre épinard, du silicon carné, c'est vraiment varié et c'est plein de recettes sympas auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Et il y a même des sauces qui vous sont proposées et puis plein de desserts, même des desserts réalisables au micro-ondes, mais pas que. Hein. Il y a les traditionnels pancakes aussi qui font toujours très plaisir et qui sont réalisables avec... des choses qu'on a souvent dans nos placards et nos frigos. Donc même si on n'a pas fait les courses depuis longtemps, on peut quand même faire des pancakes. D'ailleurs, en parlant des courses, il y a des conseils pour organiser sa liste de courses, parce que je sais que ça peut être un calvaire d'aller faire les courses et de traîner dans les rayons et de ne pas savoir quoi acheter. Donc ce livre, il est vraiment bien fait. Et en plus de tout ça, il y a une rubrique bien-être, en fait, qui donne des exercices de respiration pour se relaxer, et aussi des astuces pour bien dormir et avoir une vie peut-être un peu plus sereine. Donc ce livre, il est disponible au SSU et il est gratuit. Il ne faut pas hésiter à aller le chercher pour se faciliter la vie.
Il y avait aussi la partie sur les dates limites de péremption.
Ah oui, nous on peut parler.
Si vous voulez en parler.
Alors ça peut être aussi une astuce anti-gaspillage, puisque certains supermarchés en fait mettent à disposition des bacs où nous avons des produits qui ont une DLC. Alors c'est la date limite de consommation qui va être courte. C'est-à-dire la petite notion que vous voyez sur vos filets de poulet ou sur vos yaourts, à consommer avant le, hein, et le avant le strict, il va être important parce qu'il va nous permettre de faire la différence avec ce qu'on appelle la date de durabilité minimale. Donc on a vraiment ces deux notions. Alors pour revenir sur la DLC, en fait c'est une date qui est fixée en termes d'exigences sanitaires et qui nous permet de nous attester que jusqu'à cette date, le produit, c'est souvent des produits périssables, hein, des produits frais, ce produit ne va pas avoir d'atteinte bactériologique ou de dégradation sanitaire. Donc il va être consommable sans problème avant cette date. Bon, bien évidemment, à la maison, il peut nous arriver de consommer un yaourt qui a cette DLC un petit peu dépassée. Mais en tout cas, il faut savoir que dans les supermarchés et les restaurateurs, il y a une obligation réglementaire que de ne pas proposer de produits qui ont une DLC dépassée. Pour ce qui est de la date de durabilité minimale, la DDM, alors c'est l'ancienne date limite d'utilisation optimale, DLUO. Vous en avez peut-être entendu parler. Bref, on s'y perd, mais peu importe. Ce qui est important, c'est de savoir que sur les produits secs, alors par exemple votre sachet de pâte, de lentilles ou vos biscuits secs, on va avoir une notion qui va être à consommer de préférence avant le. Donc là, c'est une date, un estimatif. Qui est souvent sur une durée qui est assez longue et qui nous permet de garantir la qualité organoleptique, donc en termes de goût, de saveur du produit, jusqu'à cette date. passé cette date, eh bien, le fournisseur va vous dire que potentiellement les biscuits secs qu'ils proposent, eh bien, vont peut-être avoir perdu un petit peu de leur goût sucré ou de leur texture. Donc c'est pas dangereux du tout hein, de prendre et de consommer un produit qui a une DDM dépassée. Néanmoins, il faut savoir qu'il va y avoir une modification en termes soit de texture, soit de goût.
Ok, merci pour les informations.
Alors moi, je voudrais revenir juste sur le PNNS, parce que si on va sur le site, il y a quand même assez peu de choses sur les gens en situation de précarité, donc qu'il s'agisse des étudiants ou alors de toute la partie de la population française qui est dans ces situations de précarité, hein, précarité alimentaire, c'est pas une nouveauté. Et j'aimerais savoir si, à votre avis, on peut espérer que la précarité alimentaire étudiante puisse figurer dans le PNNS au cours des années à venir.
Alors ça, c'est un vrai sujet qu'on travaille beaucoup, nous, avec les épiceries sociales, et on s'est rapproché hein, de toutes les épiceries sociales pour voir de quelle manière est-ce qu'on pouvait décliner la communication vraiment qui a été faite au niveau national et l'adapter à cette population en situation de précarité. Aujourd'hui, on va avoir des recommandations qui vont être faites pour des personnes en situation de fragilité. Alors c'est pour les personnes qui sont des sujets âgés, donc au-delà de 70-75 ans, on va avoir des recommandations spécifiques. Idem pour la population enfant. On va avoir la même chose pour les femmes enceintes ou allaitantes. Mais sur la partie effectivement précarité, on est encore un petit peu pauvre, en tout cas à mon sens. Alors voilà pourquoi moi j'encourage en tout cas chaque département, chaque ville, chaque communauté de communes à pouvoir en tout cas s'inspirer de ces recommandations nationales qui sont préconisées pour l'adulte lambda en bonne santé, et à pouvoir s'associer peut-être d'experts de terrain pour pouvoir penser une communication spécifique. Mais également, au-delà de la communication, des actions de prévention très concrètes, terrain, qui seront construites également par cette population précaire. Et je crois que c'est là-dedans qu'on sera de plus en plus pertinent. La communication de masse, comme elle est faite hein, sur le PNNS, elle a un intérêt premier qui a été de donner des grands repères. Mais finalement, on sait bien qu'en termes de mesures de prévention, c'est assez pauvre pour pouvoir amener un changement de comportement. Donc il faut avant tout qu'acteurs de terrain, que professionnels, que bénévoles, on puisse se saisir de ces grandes recommandations et les impulser sur le terrain avec des actions concrètes. Et la prévention la plus efficace pour moi, elle est là.
Voilà, alors je ne voudrais pas avoir l'air d'insister lourdement, c'est pourtant ce que je fais, mais... sur cette idée de précarité alimentaire, je pense donc évidemment aux étudiants, mais aussi aux personnes qui peuvent être accueillies, par exemple, en pension de famille. Et donc, c'est des personnes qui mangent ce que la banque alimentaire peut leur fournir. Donc, c'est-à-dire déjà, on ne choisit pas forcément ce qu'on nous donne. Et puis, eh ben, des fois, on se retrouve avec, enfin, je dis n'importe quoi, mais 10 kilos de chou-fleur, 10 paquets de chips. Et c'est vrai pour les personnes qui bénéficient de colis, on ne choisit pas toujours ce qu'il y a dedans. Et des fois, ça peut être des produits très sucrés, très gras. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Et donc là, je souhaite attirer l'attention de nos auditeurs sur une initiative de la Fondation Abbé Pierre. Je le dis parce qu'à Tours, il y a des pensions de famille qui sont dans le réseau Fondation Abbé Pierre. Et ils ont proposé un événement qui s'appelle Une place à table. Donc c'est un festival autour de la précarité alimentaire. Donc je renvoie nos éditeurs vers ça. Et si vous voulez compléter, mesdames, je vous en prie.
Je crois effectivement que c'est un vrai sujet, et la question de ce qui va être proposé dans les épiceries sociales, elle vient aussi de nous, hein, consommateurs et donateurs. Ça veut dire pouvoir également orienter les dons que l'on va faire, et c'est pas pour rien que les banques alimentaires nous remettent les petits flyers à l'entrée des supermarchés en demandant plutôt des conserves de légumes plus que les paquets de gâteaux, puisque effectivement, hein, l'approvisionnement de ces épiceries sociales, ça va être les invendus vendus des supermarchés ou des boulangeries éventuellement. Donc on va se retrouver avec les grands bacs de croissants. On va avoir très peu de fruits et légumes frais. Et là, on pourrait attirer peut-être tous les producteurs qui sont sur les marchés et qui ont des invendus à chaque fin de marché, donc qui peuvent donner de manière gracieuse à la fin de marché leurs fruits et légumes non vendus, abîmés également. Mais on pourrait très bien envisager quelque chose autour de ces produits qui seraient remis dans les épiceries sociales. Et c'est vrai que pour avoir passé un petit peu de temps dans les épiceries sociales à observer un petit peu les comportements, les représentations qu'on pouvait avoir sur un travail de master, eh bien moi je me dis qu'on a encore des choses à faire, mais également pour pouvoir éduquer le public qui va dans ces épiceries sociales, hein, puisque on avait fait tout un travail nous pour pouvoir avec la Croix-Rouge enclencher une fourniture de fruits et légumes frais, et finalement les bénéficiaires nous disaient mais nous on veut pas ces produits-là. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on s'accorde tous sur quelles sont les résistances, quels sont les freins à la consommation de produits bruts qui sont plutôt sains. Qu'est-ce qu'ils représentent pour moi à table? Et ça, la question de la représentation, elle est fondamentale.
Mais c'est vrai, hein, cette idée aussi de dire que quand on a très peu de moyens, l'idée de se dire j'achète des produits, des gâteaux, des choses comme ça, c'est des choses qui sont pas très nourrissantes, mais au demeurant ça donne aussi l'illusion de consommer. Donc en fait de se dire je peux me permettre d'acheter le gâteau pour mes enfants parce que ça leur fait plaisir, c'est le même que les copains à la récré. Je vais acheter ça plutôt que des légumes, parce que des légumes il faut un four, il faut une plaque, il faut des... c'est compliqué, ça me demande du temps, donc il y a aussi cet enjeu-là, bien sûr. Et je me demande aussi dans quelle mesure toutes les recommandations que vous donnez, mesdames, pour manger de façon saine et équilibrée, ça va, induire une réflexion chez les étudiants et dans la population générale sur la consommation de sucre. Parce qu'en fait, du sucre, il y en a, mais partout, dans tout, on est bourré de sucre. Et quel impact ça pourrait avoir sur les industriels? En fait, si à un moment, les consommateurs en masse disent on ne veut pas être bourré de sucre à ce point-là. Donc est-ce qu'on peut espérer qu'il y ait un mouvement anti-sucre? Enfin, j'exagère, mais...
On peut l'espérer, effectivement. La vraie difficulté, c'est que au fil des années, les nouvelles générations je m'inclus aussi dedans, nous avons finalement été prédisposés à cette appétence au sucre. Alors, il est toujours temps de dire non, on arrête. Mais lorsqu'on voit, nous, par exemple, en consultation, lors des phases de diversification alimentaire, donc c'est-à-dire entre 4 et 6 mois pour un nourrisson, que déjà on va lui proposer un yaourt aux fruits qui va être sucré, eh bien oui, ce petit bout de chou, forcément, sa prédisposition et son appétence au sucre, elle va être déjà bien ancrée et bien fondée. Donc ça veut dire retravailler toute une éducation à tous les stades de la vie. Et je crois que vous avez raison, hein, l'urgence sur le sucre, elle est bien là. On a de nombreux documentaires qui l'attestent, hein. Je pense notamment à Sugarland qui est un documentaire très intéressant que vous pourrez visionner. Et je crois qu'il faut qu'on aille dans ce sens-là, et qu'il n'y a qu'une action, en tout cas la populationnelle de masse, qui nous permettra d'infléchir cette tendance. Hein. C'est vrai que si on arrête d'acheter notre soda préféré, tous connus, peut-être que le fournisseur à un moment se posera les bonnes questions et produira moins ou produira différemment.
Et puis aussi, on peut, plutôt que de toujours consommer nos habitudes soda, je ne sais quoi, réfléchir un peu et puis trouver des alternatives, comme ce qu'on disait tout à l'heure, même pour les boissons. Il n'y a pas, c'est pas si je bois plus de soda, j'ai que l'eau à portée de main. Je peux aussi l'agrémenter de feuilles de menthe ou quoi, qui vont donner quelque chose, un peu de peps à l'eau, à ce qu'on boit, qui vont nous faire plaisir et qui sont saines et pas sursucrées, justement.
D'ailleurs, il me semble, ça n'existe pas que dans notre région, mais il y a un cola local, ici, qui contient beaucoup oui. moins de sucre, en plus.
Oui, de l'aloe.
Voilà.
Et même un un iced tea, enfin un thé glacé pêche et une limonade aussi qui sont bien, bien meilleures.
Et qui contiennent moins de sucre, il me semble. Je me tourne vers notre experte.
Oui, tout à fait, et qui sont faits avec des produits surtout sans additifs et autres ajouts quelconques dans ces produits. Donc bien évidemment, hein, si on peut consommer local et au plus naturel possible, allons-y, hein, on ne peut que vous y encourager.
Voilà, mais bien sûr, malheureusement, dans beaucoup de cas, c'est pas que les gens ne veulent pas, mais c'est qu'ils ne peuvent pas. Parce que, comme vous le disiez, c'est très cher. Les fruits, ces produits-là, ce cola local, c'est un bon produit, admettons, mais il y a un certain coût. Donc quand on a très peu d'argent, en fait, la priorité, c'est de se remplir l'estomac. Du coup, je comprends aussi qu'il puisse y avoir des résistances, parce que les gens disent, mais moi, c'est pas ma priorité. Tout ça.
Et voilà pourquoi il faut vraiment qu'on réussisse à expliquer que la priorité, c'est de se nourrir à ce moment-là, dans cette situation-là. Et se nourrir, ça veut dire aussi choisir des aliments qui soient rassasiants. Quand on va parler de plats transformés qui sont déjà surcuits, avec des textures qui sont déjà toutes prémâchées, hein, c'est vrai, quand vous allez sur une alimentation qui est déjà transformée, on voit bien que le corps n'aura pas besoin de faire beaucoup de travail et que l'alimentation va être digérée très rapidement, donc va être très peu rassasiante. Donc d'où l'intérêt finalement pour ces populations, en tout cas qui sont en situation de précarité, de pouvoir s'orienter vers ces légumes secs qui sont extra rassasiants, parce que plein de fibres et qui permettent d'avoir une satiété qui dure dans le temps, plutôt que de choisir un produit, une purée mousseline qui va être déjà hyper lisse et beaucoup moins rassasiante. Donc dans nos choix sur des produits avec des coûts quasiment équivalents, on peut y gagner en termes d'énergie, vraiment, réellement.
Alors j'avais une autre question sur la... comment dire, qui n'a pas de rapport avec la précarité, sur la fausse bonne idée que peuvent être les barres coupe-faim. Parce que on peut imaginer que si on est étudiant, on est entre deux partiels, on n'a pas beaucoup de temps pour manger, on se dit tiens, quelle idée géniale, je vais acheter des barres coupe-faim qui sont destinées plutôt aux sportifs ou des choses comme ça, je vais manger ça, comme ça je gagne le temps d'un repas et je peux continuer à travailler. Mais à mon avis, c'est une fausse bonne idée. Alors est-ce que vous, mesdames, vous pouvez apporter des arguments à ce sujet ?
Alors, les barres coupe-faim, c'est un produit miracle pour le sportif qui est en hypoglycémie, c'est-à-dire qu'il n'a plus de sucre dans le sang et qui sent qu'il a un coup de mou et qui a besoin d'un peps d'énergie pour pouvoir repartir dans son effort physique. Mais on pourrait parler des barres chocolatées, parce qu'il y a aussi certainement beaucoup de consommation de barres chocolatées qui ont à peu près le même effet. Ce qui se passe dans votre corps lorsque vous prenez une barre chocolatée en révisant votre partiel du lendemain le soir et en vous disant « je vais sauter le repas parce que je n'ai pas le temps, il faut que je révise, donc je vais juste prendre un boost d'énergie », c'est que vous envoyez une bombe de sucre finalement dans votre corps. Donc on va produire ce qui s'appelle une hyperglycémie, donc beaucoup de sucre qui arrive dans votre sang. Sauf que votre corps va se dire « oulala, mais qu'est-ce qui se passe ? Là, il y a beaucoup de sucre, il va falloir que j'aille le gérer. » Donc, il envoie en excès tous les petits agents qui permettent de stocker le sucre dans vos cellules. Et il va se produire ce qu'on appelle une hypoglycémie réactionnelle. C'est-à-dire que votre corps a suragi et va avoir très rapidement mobilisé, stocké le sucre que vous avez envoyé dans le sang de manière violente. Lorsqu'on a une hypoglycémie réactionnelle, souvent ce qui se passe, c'est qu'on a à nouveau un coup de mou, une fatigue, des concentrations. Donc en fait, ce qu'il faut surtout éviter, c'est des mouvements de votre glycémie de ce type-là, et plutôt avoir des aliments qui permettent de la stabiliser, de vous rassasier dans le temps. Donc le jour où vous savez que vous avez un partiel, à la limite, préparez-vous juste un plat de pâtes et ce sera parfait en termes de plat pour une consommation de ce type-là. La deuxième chose qu'on n'a pas forcément évoquée aujourd'hui encore, mais c'est la question de l'environnement de mon repas. Si je ne suis pas concentrée à ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire manger, mon corps a tendance à un petit peu refouler ce que j'ai fait et à presque oublier que j'ai mangé cette barre chocolatée. Donc j'ai envie de vous dire, là, dans ce cas-là, il vaut mieux prendre peut-être 10-15 minutes, même si la recommandation serait 20 minutes pour un dîner, mais peu importe si je n'ai pas le temps. Voilà, au moins je me stoppe, je sors de mes cours, je me pose à table, j'essaye de ne pas avoir de perturbateurs autour de moi, la télé, etc. On a toujours tendance à vouloir combler un petit peu ce vide. Mais en fait, c'est pas vide, hein. Je suis en train de manger, je suis en train de faire un acte, donc il faut juste que je me concentre sur ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est capital, c'est fondamental que votre cerveau percute que oui, vous êtes en train de vous nourrir avec des aliments rassasiants et vous pourrez vous remettre à travailler par la suite.
Voilà, et bien merci beaucoup mesdames, cette émission touche déjà à sa fin. Peut-être que vous voulez rappeler les dates d'événements à venir.
Avec plaisir.
Lisa, tout de suite. Alors, il y a Croctafac, du coup c'était l'exposition sur l'alimentation réalisée par les Master 2 de Culture et Patrimoine, située au site Gramont du 27 janvier au 6 mars. Après, il y a le ciné-débat le 27 janvier au site Tonley, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est à la fac, là où il y a la médecine. C'est sur La vie rêvée des anges, le film de Eric Zonka, sur la question autour du suicide. Et il y a la prochaine détente à la BU le 30 janvier au Tanner et la soirée bien-être le lundi 3 février à partir de 18h.
Eh bien, merci à Léna et Zoé, étudiantes relais santé, Julie Capelle, diététicienne. Est-ce que vous voulez rappeler une dernière fois où est-ce qu'on peut vous retrouver si on souhaite vous poser des questions ou avoir des conseils d'alimentation?
Alors, comme je le précisais, je ne consulte plus en libéral pour ma part, mais nous sommes tout un réseau hein, de diététiciens sur le 37. Donc, très, très simplement sur Google, vous pouvez taper diététicien Indre-et-Loire et vous nous retrouverez, voilà, que ce soit sur les adresses mail, des Doctolib, hein, puisqu'on est beaucoup de diététiciens qui consultent directement avec des rendez-vous en ligne ou numéro de téléphone directement.
Et une dernière question, c'est remboursé ou pas une consultation de diététicien?
Ça n'est pas remboursé par la Sécurité sociale, ça peut être pris en charge par certaines mutuelles. Donc je vous encourage à vous rapprocher de votre mutuelle. Pour les étudiants, il y a une consultation diététique qui est gratuite, hein, si je ne me trompe pas.
OSSU. Et on peut rappeler aussi où c'est près de la place Rabelais, rue du Plat d'Étain. Souvent, c'est au bâtiment H qu'on est envoyé pour les consultations.
Et pour rappel, il ne faut pas avoir un problème avec l'alimentation pour rencontrer un professionnel diététicien. Donc, moi, je vous encourage en tant qu'étudiant, à aller rencontrer les diététiciens du SSU. C'est une vraie chance que d'avoir une consultation qui n'est pas facturée. Donc, allez-y tous.
À bons entendeurs, merci encore à Léna, Zoé et Julie pour cette émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée à l'écoute de nos programmes et les étudiants relais santé reviennent dans un mois. Bonne journée à tous.